Paladin niveau 66.
Archimage 55.
Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors bonjour messieurs, mesdames, et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique. En votre compagnie, François Gécouillard et Guillaume Forand.
Salut François.
Salut Guillaume. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de choses, évidemment toutes des choses dans le domaine qu'on va parler de jeux, comme on fait à chaque semaine. Donc toutes des choses qui ont rapport avec le milieu ludique.
Mm-hmm. Un milieu rempli de choses, qu'on découvre quelque chose à tous les semaines de nouveau, même quand c'est un sujet qu'on connaît déjà.
Mais justement, de quoi tu vas nous parler cette semaine?
Je vais parler d'un nouveau jeu qui est sorti au début du mois d'octobre, le 9 octobre, qui s'appelle Arcane Legends, qui est un nouveau jeu de figurines de combat. Et un petit peu plus de détails là-dessus un petit peu plus tard lors de ma chronique.
Arcane Legends, un peu plus tard. Et sinon aussi, on va avoir en entrevue un représentant du Parti Pirate, qui est un nouveau parti fédéral canadien. Alors, ça va être Daniel Lassalle. Et on va avoir aussi l'artiste Procyon Lothar, qui aussi, son vrai nom c'est Nicolas Moreau, qui va parler de la soirée Halloween et cosplay qui va avoir lieu à l'Université Laval le 31 octobre.
L'Halloween, quand même une journée très importante où est-ce que tous les gamers, tous les gens qui... un peu plus freak, mais pas nécessairement freak, mais un bon freak, ressortent avec des beaux costumes qui épatent tout le monde.
Ah oui, puis par moi, c'est une vraie belle fête, l'Halloween. T'sais, on mange des bonbons. Pis,
oui, puis même quand on n'est plus enfant, on achète pour les enfants. Il n'y en a pas assez qui passent. On reste pris avec les restants. Donc, tout le monde est gagnant.
Oui, puis les parents aussi peuvent se bourrer dans les friandises. Hein, c'est permis. Et sinon, on va sûrement faire de l'actualité ludique s'il reste du temps. Sinon, eh bien, on commence avec notre première pièce qui est celle de Musax.info, notre ami Yannick Capmarty. Allez voir son site internet, c'est tout consacré à la musique de jeux vidéo. Et on est toujours dans la série Castlevania. Vous êtes à puissance maximale.
Conçu par Koji Igarashi et Hayami Kojima, Castlevania Symphony of the Night met en scène Alucard, le fils de Dracula.
Thank you.
皆さんこんにちは。日本では、ナルトだけじゃなくて、みんなで、囲碁をしている。そしてな、ケベックにも、囲碁をしてください。今からピュイサンスマクシマル来てください。
De retour à puissance maximale, comme le disait le japonais mystérieux. Nous sommes avec Guillaume Forain.
Salut.
Donc, tu viens de parler de Arcane Legion.
Oui, comme les Légions Arcane. Arcane Legion, c'est quoi? C'est un nouveau jeu de figurines qui est sorti quand même assez récemment. Bon, première des choses, une petite bémol dessus. C'est un jeu qu'on retrouve dans les magasins, dans les boutiques de Montréal, qu'on peut retrouver dans plusieurs boutiques. Malheureusement, les deux grandes boutiques de Québec ne tiennent pas le jeu en magasin.
Ah.
J'ose poser quelques questions rapidement, sans insister, mais ils ne semblent pas vraiment être intéressés par ce jeu. Ils savent pas trop si ça vaut la peine ou non. Ça va dépendre de l'intérêt. Donc,
okay.
C'est pas un jeu qu'on peut se procurer ici. Par contre, jamais c'est un jeu qui intéresse les gens éventuellement à avoir.
Ça se trouve à Montréal.
Ça se trouve à Montréal, mais peut-être avec plusieurs personnes qui posent la question, peut-être que les boutiques vont pouvoir en importer un petit peu, sans nécessairement avoir grosse quantité, mais du moins pour que les gens puissent découvrir. Parce que ça vient quand même pas d'une grosse compagnie. C'est une nouvelle compagnie.
Toi-même, est-ce que tu t'es procuré des figurines à Montréal?
Non, je suis pas capable. Ben, au fait, il faudrait que je commande et que je fasse payer le shipping de Montréal jusqu'ici. Puis là, ça vaut pas la peine. Non, je viens juste d'augmenter le budget. Le jeu, qu'est-ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour 34,95, on a le jeu de départ qui inclut 120 figurines et qu'on peut jouer à deux personnes.
OK.
Fait que déjà là, si on compare ça avec d'autres jeux de figurines, c'est pas cher déjà là en partant.
Oui, c'est vrai.
Exemple du Warhammer 40 000, une boîte de base, encore là, on a une armée de base, on fait des petites parties avec ça. On parle de minimum une centaine de dollars et on n'a pas inclus toutes les autres choses qui vont avec.
Et c'est des figurines en plastique ou en étain?
C'est des figurines en plastique. La taille des figurines, c'est des 25 mm. 25 mm, pour vous donner une idée, la majorité des figurines de Donjons Dragons, Warhammer 40 000, donc si on parle d'un humain standard, on parle de 28 mm, donc un petit peu plus gros. Ceux-là ici sont un petit peu plus petits. Une chose qui est très intéressante, ben, ou moins intéressante, c'est ces figurines-là. Bon, les figurines communes, selon les informations que j'ai pu avoir, qu'est-ce que les gens disent, sont peut-être sont moins rigides que, exemple, les figurines de plastique qu'on peut avoir Donjons Dragons, les autres compagnies. Par contre, on a plus pour moins cher. Donc, ouais. On réduit un peu la qualité, mais pour en avoir une grosse quantité, qu'est-ce qui est déjà là intéressant, surtout pour les gens qui veulent partir dans le jeu, c'est très intéressant parce que les autres jeux figurines, faut pas se le cacher, ça coûte cher partir là-dedans.
Très cher.
C'est pas donné. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, les figurines rares dans ce jeu-là sont peinturées. Ils viennent déjà pré-peinturés. Les figurines communes, eux autres, ne sont pas peinturées, par contre.
Ah, tiens, il y a les deux, là. Il y a des figurines déjà peinturées et il y a des figurines qu'on peut peinturer.
C'est ça. Ce jeu-là, qu'est-ce qui est particulier aussi? Les figurines, c'est à collectionner et pas à collectionner en même temps. Dans le fond, il y a le starter set qui vient avec des figurines de base. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que c'est pas juste genre on achète deux, trois bonhommes, on les met sur la table, puis avance, on paye les points, puis avance. Ça fonctionne par formation. Donc, tu peux pas juste avoir, exemple, un archer. Faut que tu aies une formation d'archer.
OK.
Sinon, tu peux pas le déployer sur la table.
Ben, comme à Warhammer Fantasy, dans le fond.
Oui, effectivement. Comparé, exemple, à du Warhammer 40 000, où est-ce que ça fonctionne peut-être, oui, en groupe un peu, parce que ça en prend un minimum. Mais qui peuvent. C'est moins. C'est beaucoup plus par les. Dans le fond, comme le nom le dit, ça fonctionne par légion, par troupe de combat.
OK.
Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que sur, disons, une formation. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut mettre les figurines. Chacune d'eux a un endroit de formation, un endroit de départ où est-ce qu'on peut la mettre.
Okay.
Mais à fur et à mesure qu'on joue, on peut changer nos formations de où est-ce qu'ils sont situés sur le plateau, sur la carte. Et tout dépendant de son emplacement, ça va déterminer comment ils sont bons à l'offensive, à la défensive, s'ils peuvent bouger plus.
Okay.
Donc, c'est dans le jeu avec des points de commandement, tout dépendant de la situation, on peut décider qu'au lieu d'aller sur l'offensive, il me reste des points de commandement, je vais la mettre sur la défensive pour qu'elle puisse résister à la contre-attaque de l'ennemi.
Okay.
Donc ça, c'est déjà un aspect intéressant. Par contre, ces formations-là sont à collectionner aussi. Donc, si on achète, ça fonctionne un petit peu de même façon que les boosters de Donjons Dragons, où est-ce qu'on achète puis on a quelque chose au hasard. Dans ce cas-ci, oui, il y a quelques figurines au hasard qu'on peut avoir. Par contre, il y a aussi les formations qui sont au hasard. Donc, on n'est pas assuré de la formation qu'on va pouvoir trouver. Il y a des formations qui sont plus rares que d'autres.
Si on n'a pas la carte formation pour la figurine, on peut pas utiliser la formation.
On peut pas utiliser la formation si on l'a pas.
Ah ouais.
Un point positif, par contre, c'est qu'on peut, en s'abonnant sur leur site, il y a des frais d'associés avec, on peut créer des formations qui sont légales en tournoi.
Ah, bon.
Par contre, il y a un système de pointage pour déterminer comment va valoir la formation, parce que tout fonctionne avec des points. Une unité de base, exemple, peut valoir 50 points. Ça en prend un minimum de 3. Si on veut rajouter de la cavalerie à 200 points chaque, on peut se ramasser à une formation de 1000 points, 2000 points, tout dépendant qu'est-ce qu'on met dedans. Donc ça, cet aspect-là est quand même intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que si on achète, dans le fond, ce que eux autres y appellent des boîtes de boosters, on est assuré d'avoir chacune des rares et des non communes.
Okay.
Les communes, on va les avoir aussi, mais toutes les rares, puis les uncommunes, les non communes, on est assuré d'avoir un exemplaire de chaque des figurines. Donc, beaucoup plus facile d'aller chercher, dans le fond, la série au complet. Et, pour exemple, l'armée de, disons, de base, une armée de base, ça peut coûter à l'entour d'une centaine de dollars. Et on a toutes les figurines au moins une fois dedans. Et les non-communes, on peut les avoir de quelques exemplaires à ce moment-là.
Écoute, moi, il y a un truc que je me demande. Ça s'appelle Arcane Legion.
Oui.
C'est quoi le côté arcane? Est-ce qu'il y a du fantastique ou c'est simplement... là
C'est historique et fantastique en même temps. Dans le fond, il se base sur trois empires réels qui ont existé sur notre monde. L'Empire romain, l'Empire égyptien... et le Han dynastie, qui est un empire, dans le fond, chinois, qui ont existé à peu près dans la même époque.
OK, donc il y a ces trois armées-là, dans le fond.
C'est les trois armées qui existent. Il y a aussi quelques factions neutres qui peuvent se joindre aux armées. Par contre, il y a, dans le fond, à l'époque où est-ce que se passe le jeu, il y a comme eu une grosse nuit magique où est-ce qu'il y a eu de la magie qui s'est propagée partout dans le monde. Et les gens ont été... transformés par la magie, les créatures magiques sont ressorties, donc les centaures, les minotaures, des monstres égyptiens, des dieux, des morts vivants, c'est toutes des choses qui ont, grâce à la magie, sont ressorties et qu'on peut retrouver dans nos armées. Donc oui, faut voir du côté légion, comme les légions romaines qu'on voit avec les boucliers qui avancent. Par contre, à travers de ça, on peut avoir, exemple, des minotaures, on peut avoir des centaures qui viennent de la mythologie de chacune des trois races, des trois empires particuliers.
C'est tout des trucs qui sortent de la mythologie, mais historique en réalité. Là, c'est pas rien de fantastique. Là, c'est tout tiré de la mythologie.
C'est
là,
ça. Mais... c'est pas un monstre qui a été purement inventé. C'est exemple.
C'est pas comme un Jabberwock. Là,
c'est ça.
Ça peut être un minotaure ou
un centaure. Ça peut être
une sirène,
un dragon de Chine. Okay. C'est des exemples de créatures, mais ils se basent toujours sur la mythologie pour les sortir.
Okay.
Il y a des troupes différentes avec des avantages et des désavantages. Et comme j'ai mentionné, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ce jeu-là, c'est les formations, parce que tout se passe en formation. Donc, si je fais pas ma formation, je peux pas mettre les figurines sur la table. Et on a un certain nombre de points de commandement qu'on peut avoir à chacun de nos tours. Et avec ça, on détermine qu'est-ce qu'on fait. Même si on a plus de troupes qu'on a points de commandement, une fois qu'on n'a plus de points de commandement, les autres, tu ne peux pas les diriger.
Donc, oh là là.
C'est un peu comme un général qui est en arrière qui donne des ordres. Ils vont pouvoir se défendre, mais on ne pourra pas les faire attaquer, on ne pourra pas les faire déplacer.
Tu as un pool de points de commandement pour toute l'armée ou pour chaque unité a des
toute
points
l'armée.
De commandement? OK. Donc, toute c'est un pool complet. Là. Okay.
C'est ça. Il n'y a pas vraiment de limite sur le nombre de formations qu'on peut avoir sur la table. Par contre, il faut qu'ils rentrent dans notre zone de départ. S'ils ne rentrent pas, on peut pas les mettre en jeu.
Okay.
Une formation, ça peut varier, disons, de 500 points à 2500 points. Donc, puis une partie standard, il suggère à peu près de 7500 points. Donc, on peut avoir, disons, de 3 à 14 unités différentes sur la table à la fois. Par contre, il faut gérer le tout avec nos points. De où est-ce qu'on attaque, ça a l'importance dans le jeu aussi. Donc, certaines unités comme les Romains, même si on les attaque sur le flanc, ils n'auront pas de désavantage.
Okay.
Tandis que les Égyptiens, si on les attaque sur leur flanc, ils vont avoir des désavantages puisqu'ils sont moins forts, sont moins disciplinés de ce côté-là. Chaque race, chaque armée a leurs avantages. Les Romains, entre autres, on peut leur donner des ordres de regroupement pour pouvoir justement changer leur formation et que ça coûte moins cher en points de commandement.
Okay.
Donc, on peut faire avancer notre légion, la mettre en mode offensive puis qu'elle attaque. Et après ça, décider, on les met en mode défensive. Donc, on bouge nos figurines sur notre formation pour les mettre aux emplacements défensifs à ce moment-là.
Okay.
Et le système de combat, c'est très simple. On compare des dés contre des dés, un petit peu comme risque. Sauf que dans ce cas-ci, si c'est égal, il n'y a rien qui se passe. Si, disons, j'ai un chiffre plus haut que toi, mais toi, tu vas subir une blessure.
Okay.
Et chaque figurine a normalement un point de vie. Quand elle meurt, il faut enlever une figurine quelque part sur le jeu.
Okay.
Donc, à chaque fois qu'on enlève une figurine... mais notre formation devient moins en moins efficace. Donc, il faut déterminer ce qu'on va enlever de l'offensive, de la défensive, et qu'on espère qu'ils survivent jusqu'à temps qu'on puisse refaire notre nouvelle formation avec nos points de commandement.
Donc, tu n'enlèves pas n'importe quelle troupe. Là. Tu
faut
que tu choisisses. Même ta perte, c'est une stratégie dans la sélection de tes troupes que tu perds. Là.
Effectivement. Donc, okay. Disons, j'ai une unité d'archers avec quelques soldats de troupes pour l'aider à les défendre. Si je me fais attaquer, ben je peux décider d'enlever les soldats de défense, mais la prochaine fois que je vais me faire attaquer, j'aurai plus de dés pour me défendre. Mm-hmm. Tandis que si je m'enlève des archers, je vais avoir moins de dés pour l'attaque à distance. Okay. Donc, tu as toujours des choix stratégiques à faire là-dessus.
Mais là, on s'entend, s'il y a un régiment de cavalerie qui charge une unité d'infanterie, puis que c'est l'unité d'infanterie qui perd des hommes, c'est l'unité d'infanterie, c'est dans cette unité-là que tu enlèves les troupes.
Oui, c'est dans cette unité-là qui s'est fait attaquer.
Okay,
y a certaines unités, exemple dans les Égyptiens qui utilisent des genres de morts-vivants, que au début de notre tour, si l'unité existe encore, on peut replacer une figurine dessus.
Okay.
Donc oui, il y a du fantastique, un petit peu comme du Warhammer 40 000,
ben
du
fantasy. Oui, ça commence à ressembler un peu à ce qu'on est habitué.
Qu'est-ce qu'on est habitué, mais c'est vraiment l'aspect stratégie des formations qui est très, très intéressante. Okay. Et par contre, les figurines, on peut pas les utiliser pour n'importe quel jeu, parce que chacune des figurines a un petit, pas un tube, mais un petit... je cherche le mot, mais je sais pas c'est quoi, là, mais... Dans le fond, chacune des plaquettes de formation, il y a des trous pour mettre les figurines dedans.
OK.
Dans le fond, c'est un petit trou là, qu'on pique dedans. Donc, les figurines, on peut pas juste les utiliser dans une autre partie sur une table, mais ça fait des bonnes formations.
Ah, OK, oui.
Donc, on peut faire une formation, mais quand il va venir le temps de pouvoir les déplacer individuellement, ça sera pas possible.
Ça marche pas, parce qu'il y a comme une espèce de pied, dans le fond, à la figurine.
C'est ça, c'est un pied, c'est justement ce que je cherchais. Comme j'ai mentionné tantôt, le jeu de base qui coûte 34,95 prix suggéré, je l'ai vu à 29,95 à certains magasins dans la région de Montréal, c'est 120 figurines de plastique, 40 par faction. Par contre, on a juste les bases pour pouvoir jouer avec deux factions à la fois. Donc, on peut pas jouer avec trois personnes à la fois avec. Chacune des armées vient avec le commandant peinturé. Il y a 10 bases de formation. Aussi, les mouvements, c'est toujours la même distance. Donc, il y a des bases pour calculer la distance. Donc, c'est jamais à l'œil mesuré. C'est vraiment direct, la façon que les mouvements sont faits. Ça ressemble un petit peu plus aux vieux jeux là, de guerre là, qu'on voyait.
OK. Donc, Arcane Legion, donc conseillé par Guillaume Forrand.
Oui, un jeu à surveiller si jamais quelqu'un est capable d'en trouver pour à des prix raisonnables pour pas payer trop cher de shipping, de frais d'expédition. Envoyez-nous un courriel à puissance maximale et on va peut-être pouvoir s'organiser une petite soirée intéressante entre personnes.
Certainement. C'est une invitation qu'on vous lance. Donc sinon, ben je te remercie Guillaume. Arcane Legion. Et un bon jeu de figurines, c'est le fun. On en parle pas assez souvent des jeux de figurines. Moi-même, j'étais un grand fan de Warhammer Fantasy Battle. On va écouter maintenant une pièce. Ça va être celle de Extradition, qui est, ça va être une pièce qui s'appelle Port d'attache. C'est une pièce qui est dans la sur le site internet du Parti Pirate. Donc, c'est une pièce traditionnelle.
Pièce thème
pour le Parti Pirate qu'on va avoir en entrevue tout à l'heure. Alors voilà, vous êtes à puissance maximale.
Brosser les belle chaumière, amène les amants à ma mort, le port est à tribord. Après 7 mois passés en mer, ça va brosser belle chaumière.
Dans mon rêve, j'ai entendu genre les sirènes au loin. Finalement, t'es juste du tout, t'es pété dans tes 5 coins. Ces vieux astéros à pistolet, prends le parcours. C'est pourquoi ils ont pris mes bobettes, ah si, ils mais ne t'en fais pas, mamie, quand j'arrive au matin. Je serai bientôt dans ton lit, faire un petit marin.
Faire un petit marin. Amène les amants à bâbord, le port est à tribord. Après 7 mois brossés en mer, ça va brasser ben chaumière. Amène les amants.
Madame folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute puissance maximale.
Vous aimez l'Halloween? Vous aimez le Japon? Pourquoi ne pas combiner les deux passions en passant un Halloween cosplay? Et c'est ce qu'on vous offre, c'est ce que vous offre Harajuku Québec le 31 octobre au boudoir à l'Université Laval. 6 artistes, J-pop, chiptune, 8-bits, ils vont être présents. Pour vous faire danser, évidemment, pour jusqu'aux petites heures de la nuit. Et pour nous en parler, on reçoit l'artiste chiptune Nicolas Moreau, alias Procyane Lothar. Salut, Nicolas.
Salut, salut.
Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre le 31 octobre?
Ben, en fait, les soirées à Radio-Jusco, c'est quelque chose qui se passe depuis... c'est une tradition qui se passe depuis assez longtemps à Québec. C'est fait par Chromosome Syndicate. C'est des événements qui sont plutôt axés sur, justement, Harajuku. Donc, c'est des soirées où on peut s'attendre à des gens qui sont déguisés à la japonaise, donc inspirés beaucoup de manga et aussi de la mode locale là-bas. Là.
Mais là, dis-moi, là, l'Halloween, là, moi, c'est des fantômes, là, c'est des zombies, des ghouls, là, c'est quoi là, l'histoire du Japon là-dedans? Là?
Le rapport du Japon, mais ça, c'est que, comme je te dis, c'est des soirées qui se passent depuis bien longtemps à Québec, donc c'est...
Mais ce qui vient rejoindre, dans le fond, les deux passions, c'est le trip de se déguiser, finalement.
C'est ça, c'est le trip de se déguiser. On se met dans un rôle un peu manga, on s'inspire aussi de la mode japonaise, justement. Vous faites juste, sur Google, faites juste taper Harajuku, puis vous avez des images incroyables. C'est des gens qui ont beaucoup de styles. Je ne vais pas toutes les énumérer, parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va même dans le rockabilly. Ça va dans... etc. Il
ne faut pas oublier aussi que, oui, même si c'est des mangas, dans les mangas, il y a souvent des monstres, des démons, des choses comme ça. Donc, c'est pas nécessairement juste des personnages connus. Il y en a qui vont reprendre certains monstres qui viennent de certaines séries aussi.
C'est ça aussi. Il y a beaucoup de Naruto aussi que ça pogne beaucoup. Juste pour énumérer celui-là. Là.
Oui, Naruto qui passe à Télétoon. Donc, fatalement, là, c'est un des mangas qui est les plus écoutés, en tout cas au Québec.
Oui.
Dis-moi toi-même, est-ce que tu vas être déguisé, Nicolas?
Je sais pas si je vais être... je pense bien que oui, là, je vais m'essayer. C'est sûr que j'ai la coupe de cheveux, je vais essayer de faire le coup avec ça. Là. J'ai les cheveux longs, fait que je vais essayer de faire une petite coupe manga pour faire pour l'événement. Mais c'est sûr, je suis encore sur planche à dessin.
Sur planche à dessin, c'est-tu littéralement, là, ou...
Non, j'ai...
OK.
C'est un sens figuré, là.
OK. Mais sinon, c'est quoi ton personnage de manga que t'aimerais ça te déguiser en?
Oh, personnage de manga, mais je suis pas un grand suiveur de manga. Moi, la série qui m'a le plus touché, c'est Kenshin. Peut-être que je pourrais faire quelque chose qui s'inspire un peu de la série.
Donc peut-être Nicolas Moreau déguisé en personnage principal de la série Kenshin.
Moi, j'ai une question que de même, c'est de où est-ce que... D'où vient ton nom d'artiste? Tu t'es inspiré de où pour avoir ce nom-là? Parce que quand même, il ressort. Je sais que généralement, ce type d'artiste-là, souvent, il y a des noms un petit peu plus qui ressortent de la norme. Mais pourquoi ce nom-là spécifiquement?
Ben, en fait, j'ai eu une carrière de DJ sous le nom de DJ Raccoon. Procyon Lothar, en fait, c'est le nom latin du raton laveur. C'est son nom scientifique, si tu veux. Donc, j'ai voulu me nommer comme ça, aussi ce pseudonyme-là, parce que c'est ce que je fais comme ça chez tout, c'est quelque chose qui est assez expérimental. Donc, je vais donner un nom scientifique parce que c'est une expérience, dans le fond.
C'est une expérience scientifique, dont l'électronique, la science, la musique, tout ça ensemble, ça fait une belle émulsion. Dis-moi, j'ai remarqué aussi que un des noms du raton laveur alternatif, c'était le bandit, là. Est-ce que tu te retrouves un peu là-dedans aussi, ou?
Ah non, je suis pas dans le genre ratoureux. Ce serait plus un peu plus son côté. Ce qui m'inspirait beaucoup, c'est que c'est un animal qui vit de nuit, etc. C'est un peu ma créature, dans le fond.
C'est ça, souvent les artistes électroniques qui font la musique électronique vivent la nuit.
Et aussi les ratons laveurs aiment bien découvrir des choses, de fouiner un peu. Donc un peu, là, si j'imagine le côté musique, c'est le fait de découvrir de nouvelles choses, d'assimiler, de mélanger le tout.
Ben, je fouille pas dans les poubelles, par exemple.
Non. On va souhaiter. Mais sinon, tu l'as dit tout à l'heure, t'es pas quelqu'un qui suit beaucoup les mangas, mais c'est quoi tes inspirations? Est-ce que c'est plus les jeux vidéo?
Les jeux vidéo, un petit peu. J'ai un coloc qui a une PS3, donc je suis tout le temps au courant de l'actualité côté nouvelle génération. Mais moi, on va plus me revoir dans les... ce qui va m'intéresser, c'est toujours les vieilles consoles. Moi, j'ai un Nintendo chez nous, puis je joue encore à mes beaux vieux jeux.
C'est quoi justement tes jeux préférés au Nintendo?
Ah, les Dragon Warrior. Ça a été...
Très bonne série.
C'est à peu près juste ceux-là que je joue souvent. Il y a des fois j'ai de la misère à sauvegarder avec mon Nintendo, fait que la console est constamment ouverte.
Sinon, il faut souffler dans les cassettes.
Oui.
Ben, ça tombe bien que t'aimes les jeux vidéo rétro, parce que nous-mêmes, à Puissance Maximale, on va préparer une journée de jeux rétro le 22 novembre à Québec. Surveillez ça, ça va être au Studio P. Ça va être en association avec la Librairie Pantoute et la Planque Jeux Vidéo, la nouvelle boutique.
Et au niveau de la musique qu'il va y avoir, c'est quel genre de musique que toi tu vas mettre particulièrement? T'as-tu quelques hints, quelque chose, exemple la musique de Mario, modifiée un peu, du Zelda, du Dragon Warrior?
Non, c'est plus des compositions à moi, donc il y aura pas de clin d'œil vraiment sur les vieux classiques comme Mario Bros, etc. On va retrouver le même son, mais c'est quelque chose de totalement nouveau, donc c'est comme je dis, c'est ça. On va entendre les sons vintage du Nintendo, du Game Boy, tout ça, mais ça va être une chanson à une définition.
Donc du 8-bit original.
C'est que ça va être de la musique inspirée de la musique techno comme que je fais souvent. Donc comme du UK hardcore techno, ou bien aussi dans le drum and bass. Mais c'est ça, c'est avec des sons de Nintendo.
Justement, on va aller écouter une pièce que tu as fabriquée, Nicolas. Et avant tout, on va rappeler que l'événement Harajuku Halloween et Cosplay va avoir lieu le 31 octobre de 7h du soir jusqu'à 3h du matin. Ça va être au boudoir à l'Université Laval, au pavillon Alphonse Desjardins. Il va y avoir les artistes Sire, Claudel, Jack Malax, Malice in Wonderland, Freaktronic, Biotech et évidemment Procyon Lothar. Il va avoir même une section justement jeux rétro faite par la boutique La Planque, donc merveilleux. On va pouvoir jouer en même temps qu'on va pouvoir danser. Alors je te remercie beaucoup Nicolas et bonne chance le 31 octobre.
Et merci beaucoup.
Et on se quitte sur une pièce que tu m'as envoyée, et ça s'appelle It's a Chase. Est-ce que tu veux la présenter?
comment tu fais ça?
Non, mais je veux dire, est-ce que c'est quoi qui t'a inspiré cette pièce-là, ou pourquoi ça s'appelle It's a Chase?
Ah, ok, It's a Chase, mais parce que ce que je me suis inspiré surtout, vous allez voir le rythme et tout ça, je me suis vraiment mis dans la peau, comme par exemple dans un jeu F-Zero ou bien dans ces genres-là, on est dans l'espace, on fait une course et c'est qui le premier qui arrive.
All right, donc Procyon Lothar, It's a Chase, vous êtes à Puissance Maximale. Merci beaucoup d'avoir de s'être entretenu avec nous.
OK, merci.
Ciao, ciao. Et vous êtes à puissance maximale.
Je suis vraiment un nerd. Définitivement, je me cacherai pas, là. Je suis vraiment un nerd.
Ouais, vous l'assumez?
Absolument. Absolument. Puis j'en suis fier d'être un nerd.
Apparu sur l'échiquier politique fédéral depuis quelques semaines, le Parti pirate du Canada vise à réformer les lois en matière de droits d'auteur. À l'image du Parti vert, le Parti pirate ne désire pas se classer ni à gauche ni à droite. Le leader suédois a été élu récemment au Parlement européen suite à la contestation suivant la condamnation du site de partage de fichiers de Pirate Bay. Et on reçoit aujourd'hui son porte-parole, le porte-parole du Parti pirate canadien, Daniel Lassalle. Bonjour, Monsieur Lassalle.
Bonjour.
Alors, dites-moi, là, c'est quoi votre objectif, là, comme ça, là, au Canada?
Oui, ben c'est ça, comme vous l'avez mentionné, on a d'abord avant tout l'intérêt de voir les lois au niveau des droits d'auteur, les brevets aussi. On est surtout que la transparence gouvernementale, puis on est contre les produits, si on veut, DRM. Là, c'est l'acronyme anglais, mais grosso modo, c'est les mécanismes de copie anti-jeu qui, des fois, donnent plus de problèmes aux personnes qui ont des jeux originaux qu'au monde qu'ils ont copié. Donc, c'est grosso modo. Puis la neutralité d'Internet, donc c'est surtout des points technologiques, puis ça va au niveau de la vie privée principalement.
C'est ça, votre objectif, dans le fond, ça serait que l'Internet n'ait aucune contrainte, que ce soit complètement libre, dans le fond.
Tout à fait. En fait, au niveau de la neutralité de l'Internet, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut que tout le trafic, indépendamment la source, la nature, soit traité égal, dis-je. Donc, il n'y a pas de favoritisme au niveau des sites de nouvelles. Mettons que c'est avec un fournisseur Internet X qui a lui-même sa station de TV et son journal. Je veux pas qu'il privilégie. En tout cas, il pousse son contenu avant le contenu que moi, je décide d'aller voir ailleurs sur Internet.
Et j'imagine aussi là-dedans, par rapport à le CRTC récemment, qui a donné droit aux gros fournisseurs Internet de pouvoir limiter, dans le fond, la vitesse de téléchargement pour certains types d'applications. Ça doit rentrer dans ce même ordre-là aussi, là, d'enlever toutes ces limitations-là.
Exactement. Le net throttling, comme on appelle ça en anglais, qui est un favoritisme, une manière de favoriser certains sites web ou certains types de trafic. On est contre ça. Donc, nous, on veut que l'Internet reste libre. C'est un mécanisme qui est là pour tout le monde. Ça aide à faire prospérer les petites entreprises, monsieur, madame, tout le monde aussi. Donc, on veut pas qu'il y ait un gros bonnet qui s'approprie l'exclusivité du poussage de contenu sur Internet. On est contre ça.
Là, M. Lassalle, tout à l'heure, vous aviez parlé de jeux. Ça, par exemple, c'est un truc que j'avais pas vu sur votre site Internet. C'est quoi vous réservez? Là, c'est quoi votre objectif par rapport aux jeux vidéo?
Ben là, il faut faire attention parce qu'on est le Parti pirate canadien, deuxième essai, si on veut, est parti en 2009. Donc, en juin 2009, on est parti d'un parti d'ordre fédéral, donc une plateforme fédérale, c'est long à faire. On n'a pas exactement les points mis, les points CI et les barres qui étaient présentement au niveau de notre plateforme. Par contre, pour vous donner une idée, grosso modo, là, on aimerait décriminaliser l'usage non commercial des jeux, exemple, à la maison, l'usage éducatif. Donc, c'est vraiment pour l'usage non commercial qu'on pousse la décriminalisation des partages de fichiers.
Et là, je me fais l'avocat du diable, là, si j'étais une grosse compagnie de disques, là, si on laisse les gens se partager la musique sur Internet, là, qu'est-ce qu'on va donner aux artistes? Les artistes vont crever de faim?
Ouais, ben déjà, en commençant, historiquement parlant, les droits d'auteur n'ont jamais été là pour les artistes. Deuxièmement, on sait tous que les artistes font pas leur vie avec les ventes de CD. Il reste les spectacles, il reste les produits dérivés, il reste les DVD, il reste les T-shirts. Je pense que les artistes font beaucoup plus d'argent qu'avec les CD.
Sinon, c'est au Canada, est-ce que le Canada est particulièrement répressif en matière de droits d'auteur?
Au niveau des lois, c'est sûr et certain qu'on a, ben, on a le Creative Commons en anglais, qui est l'usage fair. Alors, ben là, je parle le terme anglais, j'ai pas trouvé la traduction francophone malheureusement, mais c'est un usage qui dit que quand on fait une copie pour un usage personnel, il n'y a pas signe, on n'est pas en infraction comparativement aux États-Unis. Alors que le lobbying qui se fait aux États-Unis présentement est plus agressif, plus intense, Hollywood, etc., qui aimerait mettre la main justement sur nos gouvernements puis passer les lois du sud au nord. Donc, pour répondre à la question, on est beaucoup plus permissif au niveau du Canada présentement que parmi le monde. En fait, ben, au niveau de l'Amérique du monde, on est parmi les meilleurs, là, je dirais.
Donc, en gros, c'est de permettre de, oui, faire des copies, d'aller chercher des choses, mais pas nécessairement de le revendre. Donc, pas question d'exemple, faire une copie d'un jeu, le revendre à quelqu'un, ça, vous êtes contre ou vous êtes pas de ce côté-là, ou c'est plus vraiment juste pour mon usage personnel, faire une copie de sécurité, je veux copier le jeu, est-ce que ça, c'est correct?
Le backup, bien évidemment, légalement parlant, c'est légal présentement, on est bien évidemment en faveur de ça. Deuxièmement, non, nous autres, on est vraiment pour mettre le crédit au niveau du droit d'auteur. Donc, si quelqu'un fait une pièce, fait une plage, fait un texte, fait un jeu, on veut que les droits que la personne, l'auteur même, soit au moins crédité de son travail par une référence. L'autre histoire aussi, parce que là, on a plusieurs types de droits d'auteur à apporter. Mettons qu'on prend le cas d'un film, on n'est pas contre le fait que les compagnies peuvent faire de l'argent ou du profit avec un film, ou avec la musique, ou avec X, Y, Z. Sauf qu'on se dit qu'à un moment donné, présentement, les lois, je pense que c'est 50 ans ou 70 ans après la mort d'un auteur que de la musique, que le travail d'un auteur tombe dans le milieu public. On trouve que c'est ridicule parce que personne dans sa vie actuellement va voir ça. Puis c'est un peu dommage de dormir sur tout ce beau savoir-là.
Mais là, finalement, pour répondre à la question de Guillaume, est-ce que par exemple, vous seriez d'accord avec ce qu'on puisse copier les jeux vidéo pour les passer à ses amis gratuitement ou...
Ben, tout à fait. Comme je dis, tant que c'est un usage non commercial, on est pour ça, oui, la liberté de l'expression, pour remixer le travail, pour faire d'autres choses. Oui, tout à fait, au Parti Pirate, on approuve ça à 200% certainement.
Okay. Et dans le cas où est-ce que, justement, on copierait un jeu, et au lieu de le donner, moi, je déciderais de le vendre, disons, 5$, je laisse un chiffre comme ça. Vous, par rapport à votre plateforme, ça se situe où à ce moment-là?
Ça, c'est un vol. En fait, prendre le travail d'un autre puis prendre le crédit pour le travail d'un autre, on n'est pas du tout pour ça. C'est vraiment un usage personnel, un usage non commercial. Je tiens à le mentionner, non commercial.
OK, M. Lassalle, je vais vous citer les propos du leader suédois du Parti Pirate, Rickard Falkving, le chef du Pirate Partiet. Et je vais le citer et puis je vais vous poser une question. Donc, les conservateurs ne sont pas pour le capitalisme pur. Ils sont une espèce de poule mouillée social-libérale. Je me définis comme ultra-capitaliste. La bataille maintenant se joue sur les droits des citoyens, qui est le sujet majeur. Plus important que le système de santé, l'éducation, le nucléaire, la défense et toute cette merde dont on débat depuis 4 ans. Donc, quand même, mettre sur le même pied d'égalité l'éducation et la défense, c'est quand même quelque chose. Donc, moi, j'ai lu ça puis j'étais un peu tombé en bas de ma chaise, là. Donc, est-ce que vous êtes des libertariens, là?
Ouais, c'est sûr que si on reste à cette phrase-là ou cette cotation-là du leader, ça fait revirer les cheveux sur la tête. Par contre, il y a plusieurs autres vidéos, puis il y a plusieurs autres entretiens de cette personne-là. Donc, je pense pas que cette phrase-là toute seule résume bien ce qui se passe dans le Parti Pirate. Au niveau du libertarisme, je connais pas leur plateforme, honnêtement, je pourrais pas dire. C'est sûr que nous autres, ce qu'il essaie de dire, lui, c'est qu'on est rendu dans une étape de la vie présentement où on doit décider si on veut garder notre système oppressif des droits d'auteur qui touche à tout. Communication cellulaire, communication Internet, bravo à l'école, etc. Ou si on veut justement pousser dans cette direction-là. Donc, on est au moment qu'il faut choisir. Est-ce qu'on veut se débarrasser de tout ça ou est-ce qu'on veut au contraire prendre tout ça, s'injecter une puce dans le corps, exemple? C'est le choix du monde, puis c'est pas mal là qu'on est rendu à choisir où est-ce qu'on va aller, justement.
Mais par exemple, à Montréal, vous-même, vous êtes basé à Montréal. L'Institut économique de Montréal, là, c'est le fer de lance du mouvement libertarien. Qu'on pourrait dire, vous, c'est quoi votre position par rapport à eux?
Je suis pas assez ferré présentement en politique pour me positionner à ce niveau-là. J'ai pas étudié la plateforme des libertariens du tout. Je serais pas en mesure de faire une bonne.
Mais par exemple, si on proposait, par exemple, d'abolir le gouvernement et de tout simplement prendre tout en charge de façon privée, comme la santé, l'éducation.
Ouais, là, c'est loin pas mal. Je pense pas vraiment que le privé a prouvé les bonnes affaires dans le passé. Ça, c'est pas mal loin. Déjà, j'ai pas de plateforme à défendre présentement ou de point officiel à mettre. C'est un peu dur pour moi de me situer à ce niveau-là, mais c'est sûr que je pense pas que privatiser au complet, là, c'est la bonne solution. Surtout qu'au Québec, je pense pas vraiment que ça a du bon sens à long terme et à moyen terme, et même à court terme.
C'est bien. Donc, sinon, j'ai lu à quelque part là, que le parti, je pense que c'est peut-être vous ou quelqu'un de votre parti qui avait dit ça, il a dit que le Parti Pirate n'allait intéresser que les geeks. Alors, est-ce que toi-même, Daniel Lassalle, est-ce que tu te considères comme un geek?
Ben, certainement, je suis en informatique, je suis en milieu technologique, j'ai pas peur de le dire. Puis oui, au début, c'est sûr que c'est un mouvement qui est parti par Eric, le Suédois, qui a parti de le mouvement. C'est un geek à la base. Qu'elle avait tenté de se faire criminaliser parce qu'il téléchargeait des chansons, donc il partait avec son microphone dans la rue. C'est sûr qu'à la base, ce mouvement-là va intéresser le monde qui sont en informatique, qui sont technologiquement branchés parce qu'on a notre plateforme, c'est quasiment exclusivement juste ça. Donc oui, pour commencer, par contre, à medium puis à long terme, on peut pas rester juste geek, ça prend du monde de politique, ça prend du monde de toutes les sphères légales, etc. Donc pour commencer, oui, mais pas à long terme, on peut pas rester comme ça, ça restera pas comme ça.
Puis toi-même, Daniel Lassalle, c'est quel jeu que tu joues là régulièrement?
Ben là, moi, le problème, c'est ça avec les jeux, je me suis un peu écœuré à cause d'un paquet de raisons, mais pour faire une histoire vraie, moi, la Nintendo DS, la Wii, à cause des mécanismes de pointage, je m'en prends le remis dedans. Sinon, je suis un fan de Tetris et des échecs. Là, je suis un gars assez classique, là, ce niveau-là.
Assez old school, qu'on pourrait dire. Très bien, ben, dans ce cas-là, je te remercie, Daniel Lassalle, du Parti Pirate. Pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, piratparty.ca, et puis, coudonc, aux prochaines élections fédérales, peut-être bien que vous allez pouvoir cocher Parti Pirate, qui sait?
Partipirate.ca est aussi disponible, effectivement, si les gens venaient nous voir en ligne, on a un chat, on a des courriels, on a des discussions qui se font, on est ouvert à la communication, on est là pour l'échange, donc gênez-vous pas, on est là pour ça.
Et puis en plus, il y a une section pour télécharger de la musique gratuitement, c'est des musiciens qui ont donné leur musique, qui donnent gratuitement leur musique pour la faire connaître, dont le groupe Extradition qu'on a fait jouer tout à l'heure, mais cette fois, on va faire jouer autre chose, mais sinon, allez voir ça sur le site de pirateparty.ca. Je te remercie, Daniel.
Merci beaucoup, François.
À la prochaine. Donc, on va aller écouter maintenant une pièce qui s'appelle The Work Song, et ça, c'est le groupe de Scopitones, qui est un groupe de Québec, qui fait dans le ska instrumental, et on revient tout de suite après, peut-être même qu'on va la couper, parce que on n'aura pas plus beaucoup de temps. Donc, vous êtes à puissance maximale.
vraiment heureux.
Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Section actualité maintenant. Guillaume Forain.
Oui, ben juste pour vous rappeler, pour ceux qui sont pas déjà au courant, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Supernatural, le jeu de rôle basé sur la série télévisée de Supernatural, Supernatural. Donc un jeu à essayer et découvrir pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui, essayez ça. Si ça a rapport avec le jeu, c'est que c'est bon.
C'est sûr.
On n'en parle pas assez souvent des jeux de rôle, tabarnouche.
Manque de temps.
Un Invincible chez Ubisoft. Donc, le réalisateur de Les Invincibles, Jean-François Rivard, a décidé de participer à la création d'un jeu vidéo chez Ubisoft Montréal. Donc, c'est Ubisoft qui a demandé son aide pour participer à la conception, la scénarisation et la réalisation d'un nouveau jeu vidéo d'action-aventure.
Un petit peu à la Batman Arkham Asylum, intrigue, CSI.
On ne sait rien du jeu pour lequel Ubisoft consulte Jean-François Rivard, ni le budget, ni le nom, ni la date de sortie. Donc, on sait secret. Des fois, dans le milieu des jeux vidéo, c'est toujours. Souvent, il y a beaucoup de secrets. Dans ce cas-ci, c'est le cas. C'est peut-être un jeu secret que Stéphanie Harvey nous a parlé la dernière fois qu'on l'a eu en entrevue. Et donc, c'est une première pour Ubisoft comme pour le réalisateur des Invincibles. Donc, bon. Et cela s'inscrit dans la stratégie de convergence d'Ubisoft, explique le producteur du jeu, Stéphane Cardin. Après l'acquisition du studio d'effets spéciaux hybrides, Ubisoft a fait un premier pas vers le cinéma avec sa série de courts-métrages inspirés du jeu Assassin's Creed. Est-ce que tu es au courant de ça?
Non, je ne suis pas au courant, mais là, je vais aller m'informer là-dessus, c'est sûr, certain.
Ça doit être intéressant, les courts-métrages sur Assassin's Creed.
Effectivement, il doit y avoir de quoi de bien avec ça.
Mais il y a toujours, tu sais, on voit vraiment que l'industrie du jeu vidéo essaie toujours de faire des liens avec Hollywood. Donc, c'est dans cette optique-là que Jean-François Rivard a été engagé. Donc, il devrait influencer le langage caméra ou la dramatique des personnages du nouveau jeu. Jean-François est réalisateur, mais c'est aussi un gamer qui aime les univers fantastiques.
Ah.
Donc, intéressant, c'est un gamer. Donc, l'univers, ben, maintenant, tout le monde est un gamer. Hein?
C'est la chose qui est in.
C'est in de ce temps-ci. L'univers comme les moyens d'Ubisoft tranchent avec la réalité que connaît Jean-François Rivard. Et là, je le cite. Ce qui est séduisant, c'est que les comédiens n'ont pas d'horaire et pas d'agent. Blague-t-il. Mais au niveau des productions, ce sont deux choses différentes. Ce ne sont pas les mêmes budgets et les jeux ont une portée internationale. Dans une série télé, le but n'est pas de plaire à tout le monde. C'est sûr que là, ils vont devoir plaire à un public beaucoup plus large.
Ça va être une intrigue. Ben, l'avantage, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît déjà, qui peut faire de l'intrigue à la télévision, d'apporter ce scénario-là dans des jeux. Qu'est-ce qui manque un peu? Pas tout le temps, mais ça peut amener un bon point. Effectivement, un jeu beaucoup plus intéressant côté intrigue.
Exactement. Middle harmonica. Alors, c'est la fin des Puissances Maximales. Juste le temps de vous dire bonjour et merci d'avoir écouté. C'était François G. Couillard au micro.
Et Guillaume Forain au micro aussi, de l'autre côté.
Et on remercie nos invités. Donc, Nicolas Moreau de Procyon Le Thor, qui va être le 31 octobre à l'Université Laval pour l'Halloween cosplay. Et aussi Daniel Lassalle du Parti Pirate Canadien. Et on vous dit bonne semaine.
Et bon jeu. Friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns in the Mountain Dew. I got a big broad sword.